Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible et au chaud, bien évidemment. Une nouvelle semaine s'ouvre à nous avec son lot de sujets et de questionnements en tout genre sur le temps qui passe. Voyons-nous nos parents vieillir, ça ce sera mercredi. Notre rapport parfois brouillé à la vérité. Ne nous mentons-nous pas à nous-mêmes ou encore les raisons de la pornographie. Ça ce sera pour vendredi. Mais pour ouvrir le bal de nos conversations, c'est un grand voyage et au cœur de la nature que nous vous invitons aujourd'hui et jusqu'à 15h30 sur l'antenne d'RTL. Imaginez un jour croiser un chevreuil et que cette rencontre bouleverse votre vie. Il se détourne lentement avec élégance et s'enfonce dans le taillis. Je viens d'être touchée par quelque chose de plus fort que moi. J'ai senti l'appel de la forêt. J'en ai les jambes coupées et la respiration courte. Il est temps pour moi de quitter le monde des hommes pour vivre parmi les chevreuils et mieux les comprendre. Geoffroy Delorme, amoureux de la nature, qui a décidé de vivre en immersion totale, sans confort ni abri, dans une forêt normande pendant 7 ans avec les chevreuils, et votre invité pour le grand entretien de ce jour. Bonjour Geoffroy Delorme.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, naturaliste, auteur de ce livre que j'ai trouvé passionnant, L'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage aux éditions Les Arènes. Et vous aimez à dire que vous êtes un immerseur écologique. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors les immerseurs écologiques, en fait, on a tous des écologies différentes. Et un immerseur écologique, c'est quelqu'un qui va aller dans la nature, se fondre dans le décor, jusqu'à être accepté par l'environnement, pas forcément que les animaux, mais les plantes, et avoir une connaissance relationnelle avec eux. Et puis ensuite, s'intégrer dedans et un jour revenir vers la civilisation pour pouvoir améliorer notre mode de vie.
C'est-à-dire que vous êtes allé puiser une richesse que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas nous quand on se promène forcément en forêt. On peut la ressentir, mais on ne la touche pas comme vous l'avez touchée. Et vous êtes revenu de la forêt plus riche que vous n'étiez arrivé.
Exactement. Et aujourd'hui, j'essaie de transmettre cette richesse.
Alors, c'est une vie incroyable. Et je vous disais il y a un instant, et d'ailleurs, enfin, on en discutait, ce ne sont pas les chevreuils. Ce n'est pas vous qui avez apprivoisé les chevreuils et la nature. Ce sont eux qui vous ont accueilli.
Exactement. C'est l'inverse du Petit Prince, dans un sens où c'est pas moi qui veux apprivoiser le renard, mais là, c'est plutôt les chevreuils qui étaient mes petits princes et qui essayaient de m'apprivoiser.
Ça a été quand même une aventure incroyable. Il faut faire montre d'une grande humilité et en même temps d'une grande force pour faire ce que vous avez vécu. Par quoi est-ce que vous étiez animé ?
Ah, il y avait différentes choses qui m'animaient. J'ai toujours été fasciné par la nature. Oui.
Déjà petit.
Quand j'étais gamin, on voyait les cerfs et les biches qui venaient à l'orée de la forêt. Il y avait les renards qui venaient se cacher dans les haies le long du jardin, puisque la maison était construite en lisière de forêt. Et ça m'a toujours passionné. J'avais aussi des amis qui étaient des petits merles j'essayais de.
Des merles.
Oui, des merles.
Voilà. Oui, c'est ça.
Avec les petites merlettes, les petits. Il y avait plein d'autres oiseaux. Et puis, cette forêt qui était en face, un espèce de grand massif de 4500 hectares qui me fascinait. Et je me disais qu'à l'intérieur, il y avait obligatoirement une vie. Et j'avais cet appel de la forêt qui grondait en moi.
Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ?
Quand j'étais petit, j'étais plutôt axé vers le dessin. Mais j'ai toujours préféré dessiner les animaux, ça c'est sûr.
Oui. Donc ça, les animaux qui vous ont toujours fasciné, un jour, vous avez décidé de vous fondre dans le monde sauvage. Il faut faire preuve vraiment d'humilité pour ça.
Oui, je pense.
Ce qui n'est pas le propre de l'humain, vous voyez ce que je veux dire?
Exactement. Il y a un monde aujourd'hui qui arrive plutôt en conquérant. On fait beaucoup d'écologie environnementale. On connaît les choses et on se dit, voilà, l'homme est au-dessus de tout. Et quand on arrive dans la nature, si on fait cette erreur d'appliquer cette écologie-là, elle nous détruit petit à petit parce que notre corps ne peut pas s'adapter. Et il est violemment percuté par tous les éléments et parfois il s'y perd, voire il peut y mourir. Moi, j'étais plutôt dans une forme d'écologie profonde où c'est une manière d'aborder la nature beaucoup plus humblement, justement, et de regarder les autres avec bienveillance.
Alors, regardez les autres avec bienveillance. Moi, j'ai quand même le sentiment, quand j'ai lu votre ouvrage, que vous étiez plus en confiance auprès du monde naturel et sauvage qu'auprès du monde humain.
Oui, c'est vrai.
Vous étiez un petit garçon assez solitaire.
Oui, parce que j'ai toujours étudié par correspondance. J'ai fait toute ma scolarité de l'école primaire jusqu'au lycée par correspondance.
Vous vous sentiez en décalage avec le monde des humains ?
Totalement, totalement.
Qu'est-ce que vous aviez à lui... pas à lui reprocher, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il vous inspirait ? Il vous inspirait une hostilité que ne vous inspire pas, justement, hein, pour ceux qui nous suivent sur RTL.fr, on voit des images là de chevreuil.
C'est Daguet,
on va y revenir sur cette fameuse rencontre avec Daguet. J'ai appris grâce à vous ce qu'était un miroir, hein, en fait, oui. C'est le cube blanc des... Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, parce que oui. Du coup, c'est vrai que moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le monde sauvage grâce à votre livre. Qu'est-ce que ce monde-là, qui, moi, m'apparaît étranger, vous avez de si familier pour vous, alors que le monde des humains vous semblait plus hostile.
Eh bien, ne connaissant pas le monde des humains, parce que je sortais peu, j'avais pas de copains, j'avais pas de copines, j'avais pas d'animaux domestiques, on partait très rarement, voire pas du tout en vacances, j'ai vécu totalement isolé. Et comme tout le monde le sait, en général, quelque chose qu'on ne connaît pas fait forcément peur. Et plus on grandit, et plus ce néant fait peur. Alors que la nature qui était autour de moi, je la connaissais très bien et j'étais beaucoup plus rassuré par les formes de vie qui étaient autour de moi que par les gens qui vivaient dans la société.
Vous n'aviez pas de copains de...
Non, jamais.
Pourquoi ?
Disons que c'est un choix de mes parents. Après un petit problème à la piscine...
J'ai... Un petit garçon qui a été jeté dans la piscine. Exactement. Trop vite et vous avez été choqué par ça.
Exactement.
Et vos parents ont décidé de vous sortir de l'école.
Une petite fugue qui m'a un petit peu bouleversé. Et je pense que ma vie a changé à ce moment-là.
Est-ce que l'on peut dire que les animaux, le monde sauvage, vous a aidé à mieux vivre le monde des humains aujourd'hui ?
Oui, on se découvre humain à vivre
au
avec les chevreuils.
Au contact des chevreuils, pourquoi ?
Oui. En fait, c'est une autre forme d'isolement, mais cet isolement-là, il est plutôt bénéfique parce qu'on est observateur, on est très loin. C'était une forêt qui était secondaire, hein. C'est pas une forêt primaire, j'étais pas tout seul. Je voyais bien les gens qui passaient sur les chemins, il y avait des coureurs, il y avait des vététistes, il y avait des chasseurs, il y avait toute forme de vie hein, dans
une
cette forêt.
Une jolie femme un jour.
Exactement.
Votre compagne aujourd'hui.
Exactement. Ouais. Et c'est cette forêt-là qui nous fait prendre conscience que malgré le fait qu'il y ait des pensées différentes dans cette forêt-là, on se ressemble quand même un petit peu.
Alors, on l'a vu Daguet là sur les écrans, c'est ce premier chevreuil, hein, c'est ce chevreuil qui quelque part vous a invité dans la forêt. Ça a été progressif, vous allez nous raconter comment vous avez d'abord croisé son regard, cette rencontre avec ce chevreuil que vous avez baptisé Daguet. Il s'est pas pointé un jour en disant « Salut, je m'appelle Daguet ». Il vous a emmené donc dans la forêt, vous y avez vécu en immersion totale, donc vous allez nous expliquer comment on s'installe en forêt, comment on vit en forêt sans rien, parce que vous n'aviez rien dans votre sac, vous dormiez dehors, vous avez vécu au rythme justement de ces animaux et ce sera dans un instant. On est ensemble jusqu'à 15h30 sur RTL. À tout de suite.
RTL. Flavie Flamand. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30, Geoffroy Delorme est votre invité. Il est l'auteur d'un ouvrage assez bluffant, assez extraordinaire, je dirais. Un voyage en pleine nature. Ça s'appelle L'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage aux éditions Les Arènes. 7 ans de vie sauvage avec différents chevreuils que vous avez appris à connaître, Geoffroy Delorme, et vous vous êtes fait accepter par ce groupe de chevreuils, auxquels vous avez donné des noms, qui, on s'en rend compte au fil des pages, ont tous des personnalités, des codes, évidemment, que vous avez dû apprendre, que vous avez dû décrypter, mais celui qui est à l'origine, quand même, de ce bouleversement dans votre vie, c'est-à-dire une vie d'immersion totale dans la forêt. Quand je dis immersion, c'est que vous avez dormi avec les chevreuils, vous avez mangé comme les chevreuils, vous avez cherché l'eau en forêt comme les chevreuils, c'est-à-dire que vous avez été homme chevreuil, si je puis dire, puisque c'est le titre de votre ouvrage. Cette invitation, c'est lui, là, qui est derrière nous, c'est Daguet. Ouais. Alors, Daguet vous regarde un jour, et là, vous vous dites, il faut que je le suive.
Oui, c'était comme un espèce d'appel, comme si notre croisement, notre rencontre, elle s'est faite sur un chemin comme n'importe qui pourrait faire, on va dire, une promenade en forêt et croiser le regard d'un chevreuil. Mais ce chevreuil-là, du fait que j'étais déjà un petit peu et très régulièrement en forêt, me connaissait un petit peu mieux que moi. Et quand on s'est croisés, il s'est arrêté. Moi, je me suis arrêté aussi. Je me suis accroupi. Je l'ai regardé. Et lui, il m'a fixé. On s'est regardé pendant 10 minutes. Et 10 minutes, c'est long en forêt. Et là, j'étais fasciné par ses yeux noirs, brillants. Et c'était comme un appel vers la forêt. Et puis, il relâchait un petit peu son museau pour reconnaître un peu mon odeur. Il m'a regardé. Il a commencé à s'enfoncer dans la forêt. Il a regardé une dernière fois. Et il a continué de s'enfoncer. Et moi, j'ai considéré ça un petit peu comme une sorte de rencontre du troisième type, on va dire. Ouais. C'est une invitation à rentrer un peu plus profondément dans la forêt, mais avec les chevreuils. C'était le premier animal que je voyais, que je croisais, qui restait aussi longtemps et qui s'intriguait de ma présence. Les autres animaux, en général, partent en courant ou ils vont avoir des attitudes assez peureuses. Et lui, non, il était là, très curieux, comme s'il voulait en savoir plus sur moi.
Il était loin de vous, physiquement ?
Oh, il était peut-être à entre 5 et 6 mètres, donc c'est très proche.
Oui, c'est très proche.
C'est loin quand on est habitué à vivre avec eux après.
Et quand vous l'avez suivi, justement, comment est-ce qu'il a réagi ?
Ah ben, en fait, je l'ai laissé partir. Ouais. Et puis, dans la journée, je commençais à tester les végétaux qui étaient comestibles dans la forêt. Et j'étais dans un petit roncier. Alors, les ronciers, c'est là où on va chercher les mûres au mois d'août. Et moi, je mangeais les feuilles. Et puis, d'un seul coup, j'entends un bruit dans le roncier. Alors, parfois, il y a des sangliers ou il y a des petits mulots qui se promènent. Mais là, non, c'était Daguet qui était dedans et qui se relève et qui me regarde. Alors j'ai continué à faire mine de rien, comme si je ne l'avais pas vu. Je continue à manger, et puis je suis reparti. Et le soir, dans la clairière, qui je revois ? Encore Daguet, qui était tout au loin dans la clairière, et qui faisait semblant de ne pas me voir, mais qui se rapprochait là très largement de moi. Et là, je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui est en train de se passer entre nous. C'était une forme d'amitié particulière, puisque c'était un chevreuil qui ne connaissait rien à l'humain et un humain, pour le coup, qui ne connaissait rien au chevreuil. Bon, au début, je croyais que les chevreuils, c'était des petits cerfs. Et là, pour le coup, j'étais en train de découvrir un animal fascinant et curieux de moi, alors que jamais personne, on va dire, ne s'était vraiment intéressé à moi. Et puis, un jour, à force de vivre dans la forêt, de croisements très réguliers avec lui, les distances se sont vraiment réduites, jusqu'au point où on a commencé à devenir amis, en fait.
C'est ça, parce que vous parlez d'une amitié. Hein.
Oui, c'est une véritable amitié, comme on peut avoir une amitié avec... Enfin, il y a des amitiés différentes, hein, mais les amitiés avec les animaux sont déjà fortes. Mais avec les chevreuils, c'est un animal sauvage. Il a une part de mystère à l'intérieur de lui, et il veut surtout rester sauvage. C'est ce qui est assez incroyable, c'est qu'il ne veut pas... que je l'apprivoise, il veut pas m'obéir, il veut rien faire de tout ça. Il veut juste avoir un contact avec un autre animal. Et là où c'est plus fascinant encore, c'est que ces animaux-là ne deviendront pas copains forcément avec un sanglier ou un écureuil ou un autre animal. Non, non, c'est un humain.
C'est lui qui vous a choisi, en fait.
Oui, 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 c'est lui qui m'a choisi. Moi, j'étais plutôt parti pour vivre en forêt sans forcément croiser un animal. Oui, les croiser, pourquoi pas, mais vivre
bon,
avec
il vous eux, a présenté ses potes.
Un petit peu, oui.
Au fur et à mesure, vous avez intégré au fur et à mesure la famille, hein, le groupe. Je vous demandais si on parlait d'une harde. Non, on parle d'un groupe de chevreuils. Voilà, il y a des petits en plus, parce que vous allez nous raconter la naissance aussi, hein, parce qu'il y a plein de moments très forts. On va se retrouver dans un instant. Parce qu'il n'y avait pas que Daguet, il y en avait d'autres aussi. Cétine, c'est ça ? Sa femme ? Sa fiancée ? Comment s'appelle-t-elle ? Comment l'avez-vous
appelée ? Étoile.
Étoile. Étoile, qui a mis bas justement devant vous. On va se retrouver dans un instant, on va poursuivre notre conversation sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30.
C'est l'histoire d'un homme qui devient chevreuil. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes devenu chevreuil d'une certaine façon, Geoffroy Delorme ?
Ah, je sais pas, les Indiens ils disent qu'on a tous un animal totem.
Et là, c'est
vraiment mon animal totem. Hein. Il y a des gens, ils croisent. J'ai un ami qui faisait beaucoup de randonnées. Et, lui, c'était les buses.
D'accord.
Partout où il va, il voit des buses.
Donc c'est l'homme buse, quoi.
Voilà. Et moi, par contre, toujours, n'importe quel endroit où je vais, c'est les chevreuils. Même dans les endroits où il y en a très peu, il faut que ce soit moi qui tombe dessus.
Alors, ces chevreuils vous ont invité un jour. Donc c'est Daguet. Il vous a invité à vivre dans la forêt. Comment est-ce qu'on se prépare ? Parce que quand on parle vraiment d'immersion, vous dites que vous êtes un immerseur écologique. Quand on parle d'immersion, c'est vraiment vous avez abandonné la vie telle que vous l'aviez toujours connue. Et quand vous êtes parti en forêt, vous voyagez léger, vous. Hein. On ne peut pas dire que vous partiez avec, mais même pas une tente et des sardines, quoi. Hein. C'est vous partez à poil, je dirais. Mais non, mais est-ce que c'est justement en partant aussi léger que l'on peut véritablement s'intégrer comme vous l'avez fait? Parce qu'on sent que vous avez laissé derrière vous tout de l'homme civilisé, tel qu'on pourrait l'entendre.
D'une certaine manière, chez les immerseurs écologiques, le but d'ensauvager son corps...
C'est ça, c'est vraiment ça.
Il faut vraiment concevoir à se déroutiniser. Si on ne se déroutinise pas, on n'y arrive pas. C'est des nouveaux repères, un nouvel environnement. Parfois, on le choisit, cet environnement, et puis d'autres fois, on ne le choisit pas. Mais ça arrive aussi, Alexandra David-Nils, qui est partie très loin en voyage,
grande aventurière,
a fait de l'immersion écologique. Elle est partie voir des gens, elle s'est déroutinisée pour parvenir à
faire cette...
Exactement,
Jane Goodall, avec les singes.
Diane Fossé aussi.
Diane Fossé, effectivement.
Il y a même plus récemment Jean-Michel Bertrand, la Vallée des Loups, qui a fait ce type d'expérience.
Vous vous êtes inspiré justement des parcours de ces gens-là, de ces illustres immerseurs écologiques pour pouvoir préparer votre voyage à vous ?
Alors oui, j'étais fasciné par Jane Goodall, par Diane Fossé. Je lisais aussi pas mal Nicolas Vanier, tous les récits qui pouvaient me faire voyager, mais aussi m'apprendre.
Alors qu'est-ce que vous avez appris justement avant de partir ?
Alors le petit problème, c'est que dans ces livres-là... Ils donnent pas leurs trucs et astuces.
Bah voilà, c'est ça. Ils racontent leur expérience, mais pas forcément.
Il y a 2-3 trucs pour dire, bah voilà, pour faire un feu, il faut faire ça. Mais enfin, c'était très très vague. Et j'avais quand même la chance, même si j'étudiais par correspondance, mes parents avaient une énorme bibliothèque avec beaucoup de livres, et ça me permettait quand même de savoir comment faire pour connaître les plantes, la botanique avant tout. Il faut savoir reconnaître les orties, il faut savoir reconnaître le plantain, lâcher les millefeuilles, ne pas se tromper, parce qu'il y a des plantes qui parfois se ressemblent. Et là, on arrive vraiment à, on va dire, cette espèce de période un peu comme Into the Wild.
C'est ce que j'allais dire.
Il ne faut pas rentrer dans le jeu de « comme je sais ». Il ne m'arrivera rien. Il ne faut jamais partir avec l'idée d'aller conquérir un territoire. C'est la nature qui nous accepte. Il faut avoir vraiment une connaissance relationnelle avec le monde qui nous entoure.
Donc vous vous êtes formé avant de rentrer dans la forêt?
Oui. Ensuite, on finit par peaufiner un petit peu. Par exemple, avec l'oseille, quand on prend... Moi, j'aimais bien le goût de l'oseille. Ça donne un bon petit goût à la salade, déjà, d'habitude. Mais là, quand elle est sauvage, c'était très bon. Sauf que ça détruit le foie au fur et à mesure, ça détruit les reins. Et si on en mange trop, on sent d'un coup qu'on perd... on se décalcifie complètement.
Mais vous vous êtes nourri de quoi pendant ces années?
Alors, au début, je faisais des allers-retours. Donc, j'avais quand même 2-3 boîtes de conserve. Je prenais des petites denrées. Et puis... l'année en totale autonomie où j'ai décidé de venir vivre avec les chevreuils, là je me nourrissais essentiellement, avec une bonne organisation, de glands de chêne, où il faut passer plusieurs fois dans des bains d'eau, 3 fois en général.
Sinon c'est toxique.
Sinon c'est rempli en fait de tanins, et ils deviennent mortels si on le mange cru, enfin en grande quantité. Les châtaignes, il y avait les noisettes, il y a les akènes, il y a beaucoup de fruits en fait dans la forêt qu'on peut stocker. Il faut les faire d'abord sécher un petit peu. Enfin, quand je dis sécher, c'est pas le séchage ardéchois où on fait bien sécher les châtaignes.
C'est
histoire de tuer tous les vers qui sont dedans. Parce que si on a le malheur de laisser un ver dedans, il fait toutes les châtaignes.
Mais vous aviez faim ?
Il y a des fois en fait où on a faim, mais c'est plus le même rapport en fait à la nourriture.
C'est plus 3 repas par jour. Quoi.
Non, c'est on va manger une heure, on va aller se reposer. Il faut inverser complètement son rythme. On ne dort pas la nuit. On dort plutôt dans la journée en hiver. Il y a une saisonnalité. Donc en hiver, on va plutôt dormir la journée, on va vivre la nuit. Mais arrivé, on va dire, au solstice d'été, là, on va refaire l'inverse, on va plutôt dormir la nuit et vivre dans la journée. Donc il y a tout un tas de modes de vie qui se mettent en place pour pouvoir mieux comprendre.
Des modes de vie, voire de survie quand même. On est clairement dans un mode de survie.
Oui, disons que si on part du point de vue très confortable de notre civilisation, c'est certain qu'on ne peut pas appeler ça une vie normale.
Ouais.
Mais quand on voit la vitesse à laquelle on vit à l'heure actuelle, pour moi, la survie, elle est plutôt chez nous.
De ce côté-là. Est-ce que les chevreuils vous ont appris leur rythme?
Oui, en fait, il faut... on croit que c'est un animal qui est très très rapide, toujours anxieux, qui a peur de tout. Et en réalité, ils sont très très calmes. C'est, je crois, l'animal le plus zen que je connaisse. Il est très bienveillant dans sa vie. Il est curieux de tout. On peut être dans un roncier et puis il va regarder les petits mulots qui passent. Il regarde les abeilles. C'est très
un peu comme vous, quoi.
Oui, voilà. Beaucoup de photographes sont comme ça. Je crois qu'il y a pas pire qu'un photographe.
Contemplatif.
Oui, hein, c'est vrai.
C'est vraiment ça. On va revenir dans notre monde actuel, si vous le voulez bien, avec Yann Boucherie qui va nous présenter les informations. Et on se retrouve juste après Geoffroy Delorme. À tout de suite sur RTL.
RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Ce monde sauvage ne l'est plus tout à fait pour vous, Geoffroy Delorme, même si il doit le rester absolument. C'est ça que vous nous expliquez aussi dans votre livre L'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage aux éditions Les Arènes. C'est qu'un chevreuil est un animal sauvage qui tient à le rester. La nature est un univers sauvage qu'il faut savoir respecter. Et vous, votre immersion pendant 7 ans et notamment un an d'immersion totale a nécessité une grande humilité et un apprentissage de ce monde que l'on méconnaît complètement. Vous nous avez expliqué effectivement que vous vous êtes nourri de glands et de châtaignes, je vais résumer, n'en prenez pas ombrage comme ça pendant un an, que vous avez complètement revu votre rythme de vie, le rythme biologique, vous dormiez la journée, vous étiez plus actif la nuit, vous avez vécu en fait au rythme des chevreuils.
Oui, c'est un rythme très très lent.
Mais alors, juste un jour ils vous ont dit, vas-y viens installe-toi dans notre groupe, et où est-ce que vous avez tenté une approche progressive pour pouvoir rentrer dans la famille? Comment ça se passe?
J'ai tenté une approche progressive.
Oui, ça a duré un bout de temps d'ailleurs.
Je ne sais pas, parce qu'on connaît bien Daguet, que Six Pointes, chez Vif.
On n'est pas VIP quoi quand on connaît Daguet.
Non,
quoi.
C'est un travail qu'il faut faire avec chaque chevreuil, et tout le monde ne voulait pas forcément de moi. Il y en a qui me regardaient un petit peu de travers au début, et il y en a qui étaient bons copains de loin, et puis d'autres qui étaient vraiment très proches de moi, qui étaient vraiment curieux.
Ils étaient combien?
Ah, il y avait 43 chevreuils et chevrettes.
D'accord.
Avec un petit peu plus de chevrettes que de chevreuils.
Ouais.
Mais ça, c'est pour...
Vénarde, ouais.
C'est pour la nature.
D'accord.
Ils étaient tous assez... assez curieux de me rencontrer, mais quand j'ai voulu m'intégrer à eux, c'était une question pour ma propre survie, parce que moi je pensais qu'on pouvait dormir 8 heures d'affilée de nuit, et puis que 3 repas suffisaient. Sauf que quand on vit dehors, on se rend compte à quel point c'est difficile et que nos sensations nous trahissent.
C'est-à-dire ?
Par exemple le froid. Quand on met les mains dans l'eau chaude, par exemple, elle peut nous paraître tiède. Et si on met le coude dans la même eau, elle va nous paraître plutôt brûlante. Et on se rend compte en fait que notre corps s'adapte, même déjà dans notre propre environnement humain. Et dans la nature, c'est exactement la même chose, sauf que ça va s'adapter à tout notre corps. Donc c'est une adaptation très lente. Et on ne peut pas partir du jour au lendemain comme ça. Il faut quelques années, le temps que le corps s'habitue. Parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, on s'y perd et on risque d'y mourir.
Votre peau a changé.
Oui.
Le temps de cette immersion.
Oui.
C'est une peau qui devient une peau plus rugueuse, plus épaisse, plus sensible à certaines choses, moins à d'autres.
Non,
vous avez vu votre corps changer?
On sent. On sait qu'on est moins sensible. On connaît toutes les techniques pour pouvoir se protéger. La peau, en fait, elle est plutôt fine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on ne prend pas le froid ni la glace comme les gens qui pourraient vivre dans la rue en plein cœur d'une grande ville. Là, il y a j'avais des vêtements en laine qui me protégeaient, donc des vêtements assez fins contre ma peau, et puis toute une technique de différentes couches et de maillages différents avec les pulls en laine qui m'ont permis de rentrer, on va dire, dans un certain confort. La peau, en fait, change pas grand-chose. En dessous, oui. Vous savez, quand vous marchez pieds nus, par exemple, vous allez vous rendre compte que plus vous marchez dans le sable, et plus la peau, on va dire, s'affine. Mais en dessous, vous avez une espèce de coussin,
de sous-couche,
voilà,
ouais,
qui se fait. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, votre apparence change pas grandement, mais vous savez que vous êtes différent.
Vous étiez avec un petit sac, et un sac un petit peu plus gros. Enfin, vous voyagez léger, vous dormiez à même le sol.
Parfois, oui. Ça dépend des fois. Il y a des fois où on va prendre des rameaux de sapin, on va les casser, et puis on va se faire une espèce de gros matelas. Et là, on essaye de se trouver un petit endroit plein sud, et puis on dort.
Quand vous dites « on essaye de se trouver un endroit plein sud », on dort, c'est vous,
c'est moi avec
et
les
chevreuils.
Oui.
Voilà.
Oui,
donc ça veut dire que vous suiviez la progression des chevreuils dans la journée, ou est-ce que les chevreuils sont sédentaires et bougent uniquement pour se nourrir?
On peut faire 5 km par jour, mais on n'est jamais trop en troupe. Ça dépend de la saison. En hiver, on peut être 7, 10, parfois un petit peu plus. Après, ça commence à devenir inquiétant. Si on les voit en véritable hard comme les cerfs, c'est plutôt inquiétant. Mais on est en petits groupes et puis on s'amuse les uns les autres. Il y en a toujours un. Tout le monde est différent. Vous voyez, j'ai une petite anecdote où j'étais. Il y avait Chevy, il y avait
Chevy. Fougère. Alors, il faut dire qu'il y a Daguet, sa meuf ouais. de l'époque qui s'appelait Étoile.
Non,
que vous avez baptisé Étoile.
Ça, c'est la copine à Six Pointes.
Ah bah, Six Pointes, c'est voilà. lui que je cherchais tout à l'heure, ouais, voilà. Quand je vous ai Cétine. Alors attendez, parce qu'à un moment donné, donc il y a des couples, il ouais. y a eu un bébé qui est Chevy.
Exactement.
Qui est le bébé d'Étoile.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Et donc, Chevy était un petit chevreau, vous l'avez vu naître.
Oui, voilà, c'était un petit faon qui
un
venait...
Un petit faon, pardon.
Et les chevreaux, c'est plus chez les capris.
Pardonnez-moi. Oui, oui, c'est... Mais écoutez, on chacun son métier.
Oui. Mais il ne vous en voudra pas.
D'accord, ok, je ne vais pas l'insulter. Hein.
Non, oui. Il n'est pas rancunier.
Oui, oui, donc pardon, ce petit faon, voilà,
c'est... Oui, c'est ce petit faon que j'ai vu grandir, qui m'a mis beaucoup de difficultés au début, parce qu'il ne voulait pas vraiment de moi. Il avait peur. Et puis, quand il a fait sa propre expérience, il m'a fait comprendre que pour rester sauvage, il faut qu'il puisse faire la différence entre différents humains.
Ouais.
Et que c'est seulement au bout d'un an, quand les chevreuils sont vraiment adultes, qu'on peut rentrer en communication avec eux.
Et donc, quelle est cette anecdote avec...
Alors, cette petite anecdote, c'est qu'il y avait Chevy, Fougère, Mef, Six Pointes. Il y avait voilà. aussi La Flaque, une petite chevrette qui était gentille, mais coquine. Et elle me regardait de très loin. Alors on était bien, tranquille, dans le groupe. Et puis d'un coup, elle se relevait, elle s'étirait, elle me regardait. Mais je savais qu'elle allait faire un coup en vache. Et d'un coup, paf, elle partait en courant, mais alors à une vitesse qui faisait peur à tout le monde. Les autres se disaient pourquoi elle part. Ils ne comprenaient pas, ils commençaient à courir aussi derrière. Puis bah moi, évidemment, derrière des chevreuils, c'est difficile de courir.
Comme un con derrière.
Voilà, exactement. On se retrouve là comme un âne. Ah bah oui. Donc le temps qu'on les retrouve. Et ensuite, j'ai regardé, puis elle était toute contente. Puis elle revenait vers moi, elle me faisait une petite léchouille, et puis elle repartait, elle se recouchait, et puis deux heures plus tard, elle retrouvait une autre bêtise à faire.
C'est-à-dire qu'en fait, en les observant, vous avez compris le côté joueur du chevreuil, le côté protecteur, le côté câlin. Vous allez nous raconter comment Daguet est venu jusqu'à vous un jour et a posé véritablement sa tête hein, sur votre jambe, je crois. Et cette tentation que vous avez eue de le caresser, mais vous ne l'avez pas fait. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
C'est le tout nouveau titre de Jérémy. Meilleure vie, c'est son deuxième album et il sortira bientôt. Ce sera le 19 février.
Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Geoffroy Delorme, il faut vraiment découvrir hein, son livre aux éditions Les Arènes, L'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage. Vous avez vécu donc au cœur d'un groupe de chevreuils avec chacun des personnalités bien différentes. Il y a les joueurs, il y a les méfiants, il y a Daguet qui est donc votre meilleur ami. Hein, c'est lui qui vous a invité dans la forêt, Geoffroy Delorme. Vous avez mis du temps, il a mis du temps d'ailleurs à lui-même à vous approcher et à vous toucher.
Ouais.
Est-ce que ce moment où le chevreuil vous touche, c'est-à-dire vient poser sa tête sur votre cuisse, sur votre jambe, est-ce que c'est un moment où là vous vous dites, ok, donc maintenant il y a quelque chose entre nous qui ne pourra, il y aura eu un avant et un après, il y a un lien entre nous qui va au-delà de tout, quoi.
Ah oui, il y a une, il y a un maillon.
Ouais,
il y a un maillon
ça.
Qui
oui,
s'est
exactement.
Soudé en fait.
Ouais.
On formait une chaîne. Mm. C'était le début d'une petite chaîne.
Ouais.
Et c'était lui le maillon le plus solide, hein, c'était pas moi. Mais il m'a appris à faire grandir ce maillon, on va dire, pour devenir aussi fort que lui.
Racontez-nous un petit peu, parce que la façon dont ce moment s'est présenté à vous est assez incroyable. Parce que c'est un vrai choix de Daguet de venir vers vous.
Oui, et puis je pense qu'il a bien choisi son moment, et je me demande même parfois s'il n'était pas au courant de ce qui se passait.
Ouais.
Parce qu'on était dans une clairière, et la toute première chose qu'il fait, c'est attendre, hein, regarder autour de lui s'il n'y a pas un danger, parce que l'avantage d'être dans une clairière, c'est que le danger vient de la clairière, rarement de derrière nous dans la forêt.
On voit quoi.
Voilà, on sait très bien que les peu de gens sortent d'un coup du bois pour nous faire peur. Et donc il s'est couché, et puis moi je me suis mis dans mon coin, hein, et quelques minutes plus tard, il n'était pas vraiment bien installé, et il m'a regardé. Et bon, quand ils ont une idée en tête, on le voit tout de suite. Hein. Ils ont un espèce de petit regard qui pétille. Il s'est levé, il est venu vers moi, il m'a reniflé, il a attendu un petit peu, et puis il s'est couché et il s'est blotti contre moi.
Juste à côté de vous.
Oui, carrément contre ma jambe. Et puis il a commencé à dormir. Donc moi, j'étais à côté de lui, puis on se dit, bon, ben voilà, c'est tentant quand même de vouloir mettre la main sur lui, savoir la sensation que ça fait. Mais je me le suis refusé. Et puis, à un moment, bah, il réveille, il s'est relevé un petit peu sa tête, et il l'a posé directement sur mon genou. Et là, en fait, j'avais ma main qui était sur mon genou, et j'ai senti sa chaleur, et j'ai commencé à le caresser un petit peu. C'était le dessous de son menton. Et j'ai vu qu'il se détendait, qu'il appréciait. Et puis ensuite, bon, voilà, j'ai commencé à me balader un peu sur le corps. J'ai commencé avec le cou, et puis je suis remonté sur le corps. Et je voyais qu'il se détendait, qu'il ne me disait absolument rien. Et c'était un moment unique. On se dit, mais en fait, il m'a vraiment intégré.
Ouais,
c'est pas, c'est pas un sentiment de fierté. Le simple fait de se promener dans la forêt et puis de voir les herbes de biche avec lesquelles j'étais pas forcément ami, mais qui me faisaient confiance. Et je pouvais passer à travers les hardes sans que personne ne parte parce qu'il se disait, ben voilà, lui on le connaît. C'était pas de la fierté, c'était vraiment un sentiment d'être intégré dans cette vie sauvage. Et ça, c'est quelque chose de fascinant que j'ai aimé raconter justement dans ce livre-là. Et au contraire, qu'on peut partager avec les humains. Parce qu'on a cette faculté à s'intéresser aux autres comme les chevreuils l'ont. Et on est vraiment connecté. Il est curieux, nous aussi. C'est un cueilleur, nous aussi. Donc on se retrouve à chaque fois au même endroit, au même moment. Et même encore aujourd'hui, quand on voit des chevreuils qui se rapprochent des zones périurbaines parce que les villes grandissent de plus en plus, ils ne sont pas en train de manifester leur colère en disant on a plus de forêt, on ne sait plus quoi manger. Non, non, ils viennent dans les jardins et ils s'adaptent. Et ils sont curieux de savoir qui on est. Donc moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent, bah voilà, j'ai un chevreuil qui est juste sous la fenêtre de ma cuisine, qui mange mon basilic ou qui mange les fraises.
Ce qui les rend encore plus vulnérables ?
Oui, malheureusement, ça les rend plus vulnérables parce que c'est un animal qui n'est pas méchant. Il veut juste s'adapter. Sauf qu'il ne comprend pas pourquoi les forêts, les territoires sont détruits à ce point-là. Parce que quand il y a des coupes à blanc qui sont faites... Hein,
d'ailleurs, leur territoire a été territoire. Détruit.
Exactement. Et puis, c'est pas que. Parce que rien qu'un arbre, c'est une microécologie à lui tout seul. Vous avez une centaine d'insectes, peut-être plus. Et cet arbre-là provoque d'autres interactions avec des plantes qui sont nécessaires à notre survie. Et c'est ça qui est terrible. Moi, j'ai été la première victime de la déforestation en France parce que j'avais plus de territoire. J'étais en train de maigrir, j'avais plus rien à manger. Les clairières, on avait planté un champ de maïs à la place. Mon territoire était extrêmement vaste et la moitié était en coupe à blanc. Donc j'avais vraiment plus rien. Et les chevreuils que je connaissais, eux aussi, commençaient à partir. Ils sont partis en exode pour sortir de la forêt et puis aller se réfugier le long des autoroutes, le long de la voie ferrée. Il y avait un golf qui était en bas et pareil, ils y allaient. C'est ça qu'il y a de terrible quand on vit avec eux et qu'on voit ce désastre-là et puis qu'on ne peut rien faire.
Qu'on ne peut rien faire et pourtant j'imagine qu'on voudrait faire quelque chose,
oui. Hein,
forcément. Alors vous le faites à travers votre livre. Vous avez essayé quand même, vous êtes intervenu en tant qu'humain dans la vie des chevreuils.
Oui.
Une fois à la mort de l'un d'entre eux,
oui.
Auquel vous avez réservé une sépulture, on va y revenir dans un instant. Et puis une fois, vous leur avez appris aussi à dégager face à des chasseurs en leur montrant une zone qui n'était pas préhensible justement par la chasse. On se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL, Flavie Flamand.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Alors,
avec
Geoffroy
Flavie Flamand
Delorme,
sur RTL.
Geoffroy Delorme est un homme chevreuil, mais... Voilà, vous nous l'avez dit hein, d'ailleurs, hein, il faut rester à sa place, je dirais, dans ce monde de la forêt et ce monde des chevreuils. Et à deux reprises quand même, c'est l'humain qui a parlé. Alors, à la mort d'Étoile,
oui.
Qui a été tuée par des chasseurs.
Oui, on a été pris dans une battue et Étoile s'est fait prendre par les chasseurs. Donc, elle a été blessée à la poitrine et on s'est caché ensuite sous un roncier. On a attendu que la battue passe. Et quand je me suis relevé, j'ai vu que malheureusement, elle a été touchée mortellement. Et je savais que les chasseurs le savaient et qu'ils allaient forcément revenir pour aller la chercher, donc à la fin de la battue. Et j'ai décidé de la prendre et de faire une espèce de petite sépulture. Donc j'avais un couteau de survie et j'ai essayé de casser le sol, comme avec une pelle. Sauf que chez nous, en forêt, c'est du silex, c'est de la terre, donc c'est pas toujours évident de faire quelque chose de bien. Donc j'ai fait une demi-tranchée. Je l'ai mise dedans, mais très très loin de la zone de chasse. Et puis j'ai recouvert avec des fagots et j'ai essayé de prier entre guillemets pour que personne ne la retrouve, ou qu'il n'y ait pas un chien qui passe dans le coin et qui sente son odeur, parce que je la considérais, c'était une amie.
Voilà, c'est ça. C'est que c'est là où effectivement, sans faire de l'anthropomorphisme du tout, mais non. C'était une amie et donc vous avez voulu lui réserver un destin tout autre que dans l'assiette d'un chasseur.
Exactement.
Et vous avez emmené son amoureux sur la sépulture.
Oui, en fait, il est parti. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de faire. J'ai pas eu le temps vraiment de ouais, l'emmener parce qu'il est parti tout seul. Il l'a cherché. Et puis quelques heures plus tard, il l'a trouvé. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui apprendre à éviter la chasse pour que Chevy, son fils, ne subisse pas la même chose.
Alors racontez-nous ça.
Alors en fait, chez les chevreuils, nos pensées conditionnent nos humeurs. Et une humeur, c'est égal à une odeur. Donc si on a des pensées positives, on aura une odeur plutôt sucrée. Si elles sont négatives, elles seront plutôt acides. Mmh. On peut aussi modifier son rythme cardiaque en fonction de sa respiration. Et tout ça, ça va engendrer une odeur. Et grâce à cette odeur-là, j'ai pu lui montrer un jour, un matin, il y a eu des chasseurs qui préparaient une battue. Je lui ai montré qu'il y avait différents fourgons qui passaient et que c'était pas normal. Parce que tous les matins, c'était calme. Et comme l'anticipation, c'est pas vraiment le grand don des chevreuils à la base, hein, ils vivent au présent, ils pensent pas forcément à tout ça. Moi, je lui ai appris à anticiper que quand il y avait ces fourgonnettes-là qui remontaient un chemin et qu'il entendait du bruit, c'était pas normal, qu'il fallait qu'il se méfie. Je l'ai emmené tout de suite tout en haut du chemin.
Donc vous avez simulé en fait une course. Hein,
Oui, voilà, je vais vraiment montrer par l'anxiété parce qu'il y a des chefs de file aussi hein, chez les chevreuils.
Donc ce jour-là, vous avez été chef de file.
Et je lui ai montré que sur les miradors, il fallait qu'il pense à regarder en haut.
Parce que les chevreuils ne regardent jamais en l'air.
Non, jamais. Ils regardent au sol, ils regardent devant eux, mais ils ne pensent pas à regarder en haut. Et tous les miradors que vous voyez en général le long des forêts, c'est des miradors qu'on ne voyait pas avant. Mais c'est la nouvelle mode de la chasse aux chevreuils qui fait qu'on en installe de plus en plus. Et malheureusement, c'est quelque chose qui ne se transmet pas de chevreuil en chevreuil. Donc il faudrait que je travaille avec tous les chevreuils de France pour...
Oui, un peu de taf. Oui. Mais vous lui avez montré donc ce mirador.
J'ai montré le mirador.
Avez donc simulé une respiration de peur.
Il n'y a pas besoin de se forcer grand-chose. Voilà, hein, parce que quand on sait qu'il va y avoir une battue, on a peur.
Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, donc, vous l'avez entraîné dans une zone.
Oui, sur une zone en fait où je pensais à l'époque qu'elle était protégée, puis en fait c'était une zone de chasse mais privée.
D'accord.
Et il chassait très peu d'ailleurs, et donc je l'ai mis en sécurité là, et je lui ai montré qu'en quoi ici, on pouvait être tranquille et qu'il n'y avait rien à craindre. Donc on respire profondément, on essaye de souffler lentement pour baisser son rythme cardiaque, et puis on s'allonge, on lui montre par des mouvements comme quoi ça va, et puis là la chasse est passée, il a entendu la chasse, il a compris qu'il y avait un lien, et je me suis dit j'espère qu'il a compris.
Et alors ?
Et quelques semaines plus tard, une nouvelle chasse est venue, et il a emmené Chevy, il a emmené d'autres chevreuils avec lui, sur cette zone de non-chasse pour moi. Et là, je me suis dit, j'ai quand même réussi quelque chose. Mais malheureusement, ça ne se transmet pas de chevreuil en chevreuil. Après, chez Vie, j'ai fait le même travail avec lui. J'avais que 4-5 chevreuils que je pouvais vraiment protéger comme ça.
Mais comme quoi la communication est vraiment possible.
Hein. Ah oui, oui.
Et en observant la nature, on peut apprendre un langage, c'est ça en fait. Vous avez appris un langage qui est celui des chevreuils.
Oui.
Et vous avez réussi à leur faire comprendre comment sauver leur peau, hein, je dirais.
Oui.
Parce qu'effectivement, c'est un monde en danger, on l'aura bien compris, pour beaucoup de raisons et pas simplement la chasse.
Hein. Non.
Merci beaucoup Geoffroy de l'Orme d'avoir passé cette heure avec nous. On aurait pu passer la journée entière à discuter avec vous. C'est la raison pour laquelle je conseille votre ouvrage « L'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage » aux éditions Les Arènes. Je vous remercie, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, et c'est bon de rencontrer des immerseurs écologiques comme vous. Merci beaucoup Geoffroy de l'Orme. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce grand entretien. On se retrouve demain dès 14h30 en direct sur RTL avec d'autres sujets évidemment. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à demain.